Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Thomas Rozek.
Reddit is the latest social media platform to crack down on hate speech. It banned a controversial forum called The Donald, created for supporters of President Trump. It had more than 790,000 users.
On n'est jamais trahi que par les siens. Cette maxime, vieille comme Jules César au moins, sied assez bien à l'un des aspects inattendus qui est en train de prendre la campagne de Donald Trump pour sa réélection. Lui qui avait tant été porté par de très actives communautés rassemblées sur le web, parfois au-delà des frontières américaines d'ailleurs, mais ça c'est un autre sujet. Bref, lui qui a clairement bénéficié de la puissance inégalée du web social, le voilà qui assiste à un retournement des plateformes qui jusqu'ici abritaient nombre de ses partisans. Twitter d'abord, son outil préféré qui supprime maintenant certains de ses posts, et plus récemment Reddit qui a décidé de faire le ménage dans ses fils de discussion et d'en exclure les plus problématiques, à commencer par The Donald, jadis le point de ralliement majeur des Trumpistes. De quoi remettre en valeur cette étrange plateforme qui, si elle n'a jamais connu le rayonnement international de ses collègues Facebook et Twitter, n'en demeure pas moins une pierre essentielle de l'Internet contemporain qu'elle a contribué et qu'elle contribue encore à façonner. Mais d'où elle vient, Reddit, et qu'est-ce qui l'a poussé aujourd'hui à prendre position de façon aussi tranchée? C'est ce qu'on va se demander avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. On l'a dit, Reddit n'a pas la même aura chez nous que d'autres plateformes sociales. On va donc reprendre les choses depuis le début et remonter le fil de son histoire grâce à ma consoeur Pauline Croquet, journaliste au sein de la rubrique Pixel du journal Le Monde, qui a accepté d'être notre guide aujourd'hui.
Alors Reddit, c'est une plateforme qui a été créée en 2005 par deux étudiants de l'université de Virginie, donc Steve Huffman et Alexis Ohanian. L'année suivante, en fait, elle a été rachetée par Condé Nast, le groupe de presse américain qui détient notamment le New Yorker, Wired, le magazine, qui détient encore Vogue. Au début de l'aventure, il y a une autre personne qui a travaillé avec eux, qui est Aaron Schwartz, qui est l'activiste militant, défenseur de l'Internet et notamment qui est des milieux libristes, donc voilà, qui est pour les logiciels libres, le partage, qui s'est suicidé en 2013. Donc voilà, on est plutôt une équipe, un petit peu comme pour beaucoup de plateformes. Aux origines, on a plutôt un groupe de geeks un peu passionnés et qui a envie, en fait, voilà, de faire une plateforme sociale, puisque Reddit est quand même assez particulière, puisqu'on appelle ça un agrégateur de communautés. C'est aussi un agrégateur d'actualités sociales qui a la particularité encore aujourd'hui d'avoir un design assez simple encore, assez rudimentaire. C'est un petit peu même abscon pour les gens qui connaissent pas, parce que quand on rentre dessus, ça, voilà, c'est assez basique. Ça a gardé son design très années 2000, en fait, si on se souvient des sites web de cette époque-là. Et donc, ça fonctionne de façon assez particulière, puisqu'en fait, donc on a Reddit, cette plateforme. À l'intérieur de Reddit, il existe des sous-communautés qu'on appelle des subreddits qui s'organisent par thème ou par affinité. Donc il y en a sur des actualités mondiales, il va y en avoir sur des fans de moto, va y en avoir sur des fans de séries. Il y a aussi des groupes un peu plus politisés. Donc en fait tout ça, donc ça crée des subreddits, et à l'intérieur de ces subreddits, n'importe quelle personne qui a créé un pseudonyme peut ouvrir ce qu'on appelle un thread, qui est un fil de discussion qui a été popularisé depuis sur Twitter aussi. Donc c'est ce fil de discussion, ce thread qui est ouvert à partir, ben on y partage un petit bout de texte, un lien, une vidéo, et à partir de là, les autres peuvent commenter, mais peuvent aussi quelque part noter ce post, puisqu'il y a un système de flèches, on peut upvoter ou downvoter en faisant remonter le post. En fait, les commentaires les plus populaires, ceux qui recueillent le plus de, finalement, de flèches qui vont vers le haut, sont remontés dans le fil, les autres sont un petit peu sont noyés. Donc ça, c'est la particularité de Reddit sur son fonctionnement.
Est-ce que tu dirais que c'est un espèce de mélange entre un réseau social et un forum à l'ancienne, comme on pouvait le connaître il y a plus d'une quinzaine d'années maintenant sur Internet ?
Absolument. C'est souvent la définition qu'on lui donne. C'est vraiment ce mélange-là. Et effectivement, le terme agrégateur de communauté me plaît assez, dans le sens où vraiment Reddit rassemble des gens qui ont des centres d'intérêt communs dès le départ, en fait. C'est-à-dire qu'on arrive sur la page du site et les threads les plus populaires ou les communautés les plus populaires apparaissent, sont surreprésentées. Mais en fait, on peut aller y chercher la communauté qui nous intéresse. Et donc, à partir de là, donc on agrège sa communauté. Donc, il y a ce côté aussi réseau social qui s'affine aussi avec une certaine forme de popularité. Mais derrière, il y a aussi le forum où finalement, d'une certaine façon, assez démocratiquement, chacun peut y poster quelque chose, qu'il soit connu ou pas connu. Normalement, on n'est pas connu sinon par son pseudonyme sur Reddit. Après, il y a des exceptions puisque des célébrités. Reddit s'est rendu populaire aussi avec un format d'interview collaborative qui s'appelle le AMA, Ask Me Anything, qui était rendu populaire notamment par Barack Obama, qui en 2012 arrive sur la plateforme, écrit « Salut, c'est Barack Obama, posez-moi les questions que vous voulez ». Ça d'ailleurs, c'est un jalon important de Reddit, puisque il y a eu des milliers de commentaires, des dizaines de milliers de commentaires. Ça a créé même pas mal, je crois que le trafic a été ralenti, il y a eu des blocages, parce que c'était assez inédit. Depuis, beaucoup de célébrités en ont fait également. Il y a Edward Snowden qui, en 2015, je crois aussi, avec Laura Poitras et Glenn Greenwald, ont également fait un Ask Me Anything. Donc c'est très populaire, mais en dehors de ça, n'importe qui a le droit de poster quelque chose et de le soumettre un petit peu à la fois au vote populaire, à la vindicte populaire aussi parfois, à la discussion, au débat.
C'est ce mélange de très sérieux, voire de politique aussi, beaucoup de politique, et de très léger qu'on trouve ailleurs sur d'autres sites du web, d'autres parties du web, qui a fait sa particularité et peut-être même son succès.
Oui. En fait, Reddit est très connu pour son poids dans la culture web. Parce que même si on n'a jamais été sur Reddit, il faut quand même avoir conscience du fait qu'on a été influencé par Reddit. Reddit, sa punchline un peu de base, c'était « the homepage of Internet », c'est-à-dire la page d'accueil d'Internet. Les créateurs prétendaient que si on allait sur Reddit, on avait une assez bonne idée de ce qui faisait le buzz sur Internet, voire même avant le buzz, c'est-à-dire que des journalistes de culture pop et autres se rendent sur ces sites pour aller piocher des idées. D'ailleurs, on l'a reproché à certains sites américains d'aller un peu trop se servir librement sur des classements Reddit. Donc, il y a vraiment ce côté de la culture de l'humour, énormément de mèmes Internet, très anciens, dès les débuts, en fait, de cette culture web, sont nés sur Reddit. Donc, finalement, certains mèmes qu'on peut utiliser, finalement, avec nos amis sur d'autres réseaux sociaux, sont probablement nés sur Reddit. Donc, il y a cette grande culture de l'humour, cette culture aussi d'aller rechercher des vidéos un peu improbables et des choses comme ça, mélangées avec une certaine culture politique. Effectivement, alors c'est compliqué parce qu'il y a une forme d'athéisme militant. C'est ce qu'écrivait mon collègue Damien Leloup dans Le Monde il y a quelques années. Donc, énormément de gens qui sont très engagés, très militants, mais qui n'ont pas spécialement de bord politique. On va avoir des gens un peu libertariens. On va avoir énormément des communautés scientifiques, des communautés geeks, avec ce qu'elles comportent aussi de politique. Donc parfois les activistes, des gens qui ont pu militer contre certains projets de loi, des gens des soutiens de Snowden, des soutiens de Julian Assange aussi. Donc il y a cette partie aussi qui s'est politisée. Et après, plus récemment, et notamment en 2016, on a vu aussi, alors elles existaient avant, mais on a vu émerger et prendre un certain poids des communautés politisées en faveur de Donald Trump. Il y a certains subreddits, donc certaines sous-communautés, qui ont clairement été un fer de lance de la campagne en ligne de Donald Trump, c'est avéré.
Ce qui est étonnant, pour les personnes qui sont extérieures à la culture web profonde, on va dire, ce qui est étonnant, c'est que Reddit n'a jamais connu la popularité qu'ont pu connaître des grandes plateformes d'échange public comme Twitter, comme Facebook, qui sont rentrées dans les mœurs et dans les usages à travers le monde. Reddit s'est resté à la fois très américain et en même temps, j'ai l'impression, un peu infra par rapport à ces plateformes qui, elles, sont vraiment sur le devant de la scène?
Alors, c'est pas si infra que ça aux États-Unis, c'est vraiment ça, c'est partie prenante d'une culture et d'une certaine classe américaine, c'est très prisé. Alors, c'est compliqué de faire des profils en ligne, mais souvent les enquêtes sociologiques qui s'y sont essayées ont quand même plutôt repéré qu'on était sur un public assez jeune, plutôt masculin, plutôt classe moyenne, avec souvent un profil derrière scientifique, d'ingénieur, informatique. Enfin voilà, on a quand même ce profil-là. Ce qu'on souvent d'ailleurs, on parle d'une certaine homogénéité de Reddit. C'est un peu compliqué à dire, mais une homogénéité sociale, et notamment par le fait que c'est principalement, tu as raison, anglophone. Et donc la majeure partie des utilisateurs de Reddit habitent aux États-Unis. Toutefois, ça reste quand même pas si infra que ça, parce qu'on a quand même 340 millions d'utilisateurs, donc ça reste non négligeable. On a des milliers de subreddits, de communautés. Donc effectivement, après, la puissance d'une communauté, elle ne tient pas que par son nombre, mais aussi par sa capacité à être active, à se regrouper et à avoir un pouvoir de lobbying. On le voit bien sur Twitter, par exemple, il y a des gens qui ont un pouvoir, une chambre d'écho énorme, alors qu'ils ne sont pas si nombreux. Donc ça, il faut en tenir compte sur Internet. Après, il est vrai que même s'il y a une partie francophone de Reddit, puisqu'on peut faire des posts en français, les commenter et de la même façon, c'est moins connu, on va dire que c'est plus de niche chez nous. Donc effectivement, du moment où on parle pas trop anglais ou qu'on n'est pas très à l'aise avec cette culture anglophone ou anglo-saxonne, ça va être plus compliqué. Mais justement, il y a toujours des gens sur Internet pour aller piocher quelque chose, le remâcher et puis nous le retranscrire dans une autre langue. Mais c'est vrai que du coup, ça se limite. C'est pas comme Facebook qui s'est répandu sur la planète et qui a vraiment des spécificités par pays, où il y a des pays qui l'utilisent plus que d'autres, où on est même d'ailleurs bercé dans ses frontières géographiques, en fait. On va avoir très peu d'interactions avec moi, j'ai tendance à dire des Facebook, parce qu'en fait, selon chaque pays, il y a quelque part un Facebook. C'est un régime, effectivement, assez différent.
On a évoqué comme grand marqueur cette entrée du politique très sérieux sur Reddit en 2012 avec le Ask Me Anything de Barack Obama. C'est quoi les autres grandes étapes dans l'émergence et la floraison, on va dire, de Reddit dans son histoire?
Donc effectivement, ce jalon, cette interview de Barack Obama, c'était quand même quelque chose auprès des Redditors, donc le nom qu'on donne aux utilisateurs de Reddit. Après, les grands jalons, ils vont aussi surtout se situer en fait dans la modération de Reddit, où on passe vraiment d'une défense absolue de la liberté de parole à l'américaine, ce qu'on connaît et ce qu'ont défendu beaucoup de réseaux sociaux, à une modération de plus en plus resserrée, déjà à l'aune des événements, mais aussi parce qu'on grandit avec Internet, on se rend bien compte qu'il y a des gens qui souffrent parfois des discussions, des débats qui sont cibles de propos haineux et de discours toxiques. Et donc tous ces gens-là qui étaient un peu laissés sur la touche en fait par la modération, mais aussi parce que les fondateurs de sites ou de réseaux sociaux ne sont pas concernés par ce type de sujet, avaient peut-être tendance à les minorer. Ben en fait, ces grands créateurs, ces fondateurs, Steve Huffman, Alexis Ohanian, ils ont vieilli, ils ont grandi, ils ont fondé des familles et se rendent compte que l'outil qui était un petit peu innocent, qui était divertissant, en fait, a des vraies conséquences, en fait. Aux alentours de 2014, on s'est rendu compte qu'il y avait des subreddits qui étaient consacrés à la divulgation de photos de jeunes filles très dénudées, très problématiques. Un an plus tard, un autre subreddit est consacré à la divulgation de photos intimes qui ont été volées de célébrités. Donc là, à partir de là, il y a eu des changements à la direction de Reddit. Est entrée comme PDG une femme qui s'appelle Hélène Pao, une ancienne juriste et une entrepreneuse de la Silicon Valley, donc qui est devenue PDG par intérim. Et cette femme, qui était déjà très engagée, qui est assez militante sur les questions de racisme, de haine, de sexisme, a tenté en fait de mettre en place des mesures de modération plus sévères, notamment pour bannir des communautés qui ouvrirait des chaînes un peu toxiques, qui tiendrait des propos compliqués, notamment au regard de ces contenus sexualisés à l'insu, encore une fois, des personnes en fait qui sont exposées sur ces photos. Donc Hélène Pao, elle a fait bannir, si je me souviens bien, plusieurs subreddits. Donc ça, c'était inédit en fait Reddit ferme des subreddits. Donc notamment, il s'agissait de subreddits qui clairement se moquaient de personnes transgenres, mais aussi de personnes obèses. Là, ça a créé un schisme au sein de Reddit, puisque déjà à la base, les utilisateurs, il faut savoir que Reddit repose sur un système de modération qui est fait par ses utilisateurs, des utilisateurs très actifs qui deviennent administrateurs de subreddits et qui les modèrent. Donc, à la base, on suit les règles de fonctionnement de Reddit qui étaient plutôt légères. Il y avait très très peu de guidelines, de règles. Mais au sein de son subreddit, on peut imposer et durcir des règles. Par exemple, on peut décider que on ne s'attaquera pas à tel parti politique si on a un subreddit d'un autre parti. On peut décider de ne pas aborder tel sujet. Notamment, il y a des subreddits autour des maladies mentales, autour des personnes qui sont en dépression. Donc là, il y a tout plein de règles qui sont mises en place par les administrateurs. Donc à partir de là, tous ces administrateurs qui sont bénévoles, qui sont issus de la communauté, ils se sont aussi insurgés contre Hélène Pao et contre les gens en disant « Ok, vous supprimez ces chaînes, mais pourquoi ces chaînes et pourquoi pas d'autres ?» Il n'y avait pas de règles claires, c'était un peu au cas par cas. Et c'était un peu aussi avec les thèmes dans l'air du temps. À un moment donné, on considérait que le sexisme, c'était un problème majeur du moment, donc on essayait de le régler. Donc tout ça a fait que ça a créé énormément de tensions. Elle a été bien entendu... Elle-même a été victime de campagnes de haine raciale, puisque c'est une femme racisée. Elle a été aussi victime de propos sexistes. Elle a été comparée à Hitler. Je pense qu'elle a été aussi un peu mise sur la touche par d'autres pontes de Reddit qui étaient issues des communautés qui avaient cette culture web et qui considéraient qu'on peut tout dire, qu'il faut tout dire. Elle a été poussée vers la sortie. En même temps, derrière, Reddit a amorcé un premier pas. C'était une modération quelque part... Cette suppression de contenu abusif en 2015, c'était déjà un précédent, en fait. Et donc, à sa suite, c'est Steve Huffman qui a repris le poste de PDG et qui, assez vite, s'est rendu compte, en fait, de ce qu'a, bah, finalement, des problématiques que devait endosser Hélène Pao. Et donc, à partir de 2017, Steve Huffman, il a commencé à mettre de l'eau dans son vin. Quelques temps avant, Reddit avait mis en place un système qu'ils appelaient de quarantaine. C'est un système où, en fait, les subreddits ne sont pas supprimés, mais quand ils sont problématiques, on ne leur donne plus de cette visibilité. C'est-à-dire qu'ils ne vont plus aller sur la home, même s'ils deviennent populaires. Et en parallèle, les utilisateurs qui ont envie de s'y rendre, il faut qu'ils aillent précisément à l'adresse de ce subreddit, à l'adresse URL. On ne pouvait plus trop tomber dessus par hasard. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à une communauté qui s'appelle The Donald, qui en 2016 donc rassemblait énormément de partisans de Donald Trump, mais qui a relayé des fake news, des propos problématiques, des propos racistes. The Donald, en fait, a été passé en quarantaine à un moment donné, et puis là, plus récemment, et c'est les derniers événements, a été directement supprimé. Mais pareil, dans la tête de Steve Huffman, voilà, il y a des étapes qui ont été cochées. En 2017, il y a eu les événements à Charlottesville.
Cette vidéo est filmée par un manifestant. Au loin, une voiture fonce dans la foule. Un choc à pleine vitesse. Ce sont des contre-manifestants qui ont été pris pour cible. Ils dénonçaient un rassemblement d'extrême droite dans la ville. L'agresseur a percuté de plein fouet ses voitures et laissé une vingtaine de blessés au sol. Une femme a été tuée.
Et Steve Huffman, il s'est dit... On peut pas laisser en fait un droit de cité, un tel droit de cité à ces groupes-là. Donc il a supprimé des subreddits repères de néo-nazis ou de l'alt-right. Donc ça, c'était en 2017, c'est déjà un premier pas. Et plus récemment, donc là, on a le Black Lives Matter. Il s'est passé plusieurs choses au sein de Reddit qui sont tout à fait intéressantes. Donc déjà, Hélène Pao, qui a continué, même en partant de Reddit, à militer pour des réseaux sociaux plus modérés, qui ne sont pas des zones de non-droit où on peut tout dire, où on peut s'en prendre à tout le monde, a adressé de temps en temps des mots à Reddit en disant « il faut que vous fassiez quelque chose, vous ne pouvez pas héberger ces gens-là, c'est lourd de conséquences, notamment envers le subreddit The Donald. Vous avez joué quelque part votre rôle dans la campagne américaine, faites quelque chose. » En plein Black Lives Matter, il y a eu deux choses. Donc, une première chose, c'est que Alexis Ohanian, on va faire deux minutes people. Alexis Ohanian, il s'est marié avec Serena Williams, qui est une grande sportive, mais aussi une militante. C'est quelqu'un qui prend énormément la parole sur les questions de racisme et sur les questions de sexisme. Donc, je pense que Alexis Ohanian, du coup, Il a fait aussi son chemin, il s'est construit politiquement sur ces questions-là. Ils ont une petite fille aussi. Donc au regard de ça, en fait, avec les récents événements du Black Lives Matter, Alexio Agnan, il a dit « Je vais démissionner et j'aimerais que quelqu'un qu'à Reddit, ce soit une personne noire qui prenne ma place. Et j'y tiens. Parce qu'en fait, je n'ai pas envie que dans quelques années, ma fille me demande « Et toi, qu'est-ce que tu as fait ?» Voilà. Donc moi, en tant que blanc, je peux faire quelque chose. Et voici ce que je fais. Donc voilà, il est parti et avec ce propos qui est relativement fort. Et la deuxième chose, c'est que quelques temps après, alors là, c'est vraiment inédit, c'est la première fois. Donc Reddit a décidé de supprimer 2000 subreddits qui tenaient des discours haineux, qui tenaient des discours problématiques, dont The Donald. Alors, dans les faits, The Donald, surtout depuis sa quarantaine, était beaucoup moins utilisé qu'avant. Avait perdu sa superbe, les militants sont partis ailleurs. On est d'accord. Mais symboliquement, autant de chaînes. En 2015, on parlait de 4-5 chaînes. Là, autant de chaînes d'un coup, avec un propos très fort de Steve Huffman qui dit voilà, on ne peut plus cautionner ça, c'est quand même. Là, on est vraiment sur. En 10 ans, un peu plus de 10 ans même, on est vraiment sur. Une traversée du discours qui est très différente, quoi. C'est le discours d'une génération où finalement on arrive sur Internet, tout est fou, tout est beau, on peut partager plein de trucs, c'est la liberté, on se connecte à plein de gens. Ça a énormément d'avantages et petit à petit, on voit les effets désastreux que ça peut avoir sur des gens, fragilisés ou pas d'ailleurs, mais on voit très bien l'influence qu'ont eu les réseaux sociaux sur des discours politiques, sur des campagnes politiques, comment elles ont servi à certains États pour s'ingérer dans des affaires étrangères. Ça, enfin, je veux dire, c'est plus à prouver. Donc finalement, et effectivement, Reddit, là où ça pouvait encore prêter à sourire, parce qu'on avait l'impression que c'était, on va dire, une ferme à lolcat et à personne, enfin voilà, et à vidéo un peu en mode vidéo gag, derrière, ça fédère une communauté, ça fédère une tranche de la population qui peut-être parfois n'était pas toujours touchée par les discours politiques. Il y a un vivier, c'est des gens peut-être qu'on n'arrivait pas toujours à raccrocher, et parfois sous des dehors un petit peu anodins, rigolos et tout ça, derrière, en fait, c'est pas pour rien que même de l'autre côté, dans des manifestations Black Lives Matter, ou dans d'autres types de manifestations, on arbore des symboles de pop culture et de culture web.
Car, et c'est une des leçons de la dernière décennie passée sur le web, l'Internet, c'est la vraie vie. Et le dialogue entre nos vies numériques et nos vies concrètes ne va a priori aller qu'en s'intensifiant. Autant de raisons d'être très attentif aux évolutions des unes comme des autres. Merci à Pauline Croquet pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Laurent Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Continuez de bien vous laver les mains, de respecter les gestes barrières et de ne pas oublier le personnel soignant. Et à demain pour un nouvel épisode.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code PROGRAM.